Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 11. À partir du moment où le docteur eut promis à Louise qu'il la mettrait en présence de son ami le rémouleur, la jeune fille attendit avec impatience l'heure de se rendre à l'hôtel du médecin. Et quand Picard se présenta pour les accompagner, Henriette et elle, ce fut Louise qui courut demander à la comtesse la permission de partir. « Comme te voilà ému, mon enfant !» fit Diane en déposant un baiser sur le front brûlant de sa fille. « Il semble que depuis hier, tu te fasses une fête d'aller rendre visite à notre cher docteur. Si c'est la reconnaissance pour les bons soins qu'il t'a donnés qui te met ainsi l'âme en joie, je ne puis que te féliciter, mon enfant, de ce sentiment. » Mais tout en simulant la surprise, Madame de Lignières clignait de l'œil à Henriette comme pour lui dire « C'est bon signe !» En effet, Diane n'aspirait qu'à voir se réaliser le projet de mariage avec le fils d'adoption de M. Hébert, et elle supposait que sous l'empressement qu'on mettait à se rendre auprès du docteur se cachait le plaisir de revoir le prétendant. Depuis qu'il n'était plus question que de mariage, à l'hôtel de Lignières, Picard ne se sentait plus d'aise. Il s'attribuait tout le mérite d'avoir mené à bien l'affaire des amours du chevalier avec Henriette et prenait à l'égard des autres serviteurs des attitudes de conquérant du plus puissant effet. Mais quand Louise fut recherchée à son tour par un prétendant à sa main, Maître Picard se trouva en présence d'une difficulté qui le rendit absolument perplexe. Il se demandait lequel de ses trois maîtres il allait servir à présent. « C'est que j'aime tout ce monde-là !» avouait le brave Picard. Et je mourrais de chagrin si je devais cesser de les voir les uns et les autres. » Toutefois, en attendant la solution du problème qui lui tourmentait si fort l'esprit, le vieux serviteur se multipliait. Aussi attendait-il dans l'antichambre depuis plus d'une heure déjà, quand Henriette et Louise vinrent le rejoindre pour se faire accompagner chez le docteur. Pendant tout le trajet, Picard ne tarit pas d'éloges, tant sur son maître que sur le jeune homme qui aspirait à devenir l'époux de Louise. Il jurait, ses grands dieux, qu'on pourrait parcourir l'univers tout entier avant de retrouver une seconde paire de fiancés semblables à ceux-là. Henriette souriait, mais Louise n'écoutait que d'une oreille distraite tout ce que pouvait improviser Picard. Elle allait se retrouver en présence du rémouleur. Elle allait, pour la première fois, le voir, et son âme éprouvait des sensations étranges. Louise se demandait en effet si ce pauvre diable de rémouleur ne se trouverait pas mal à l'aise devant elle, s'il ne rougirait pas d'être vu, lui, que sa difformité et sa mine chétive avaient fait surnommer l'avorton. Certes, elle se promettait bien de ne paraître pas s'apercevoir de sa difformité. Elle lui témoignerait la même sympathie qu'autrefois, elle lui ferait comprendre, par de douces paroles, combien elle avait pensé à lui, combien elle se trouvait heureuse de le revoir. Dans sa tête, Louise cherchait à préparer à l'avance le petit discours qu'elle allait tenir à son ancien compagnon de misère. Et tout ce qui lui venait à la pensée ne lui semblait jamais assez affectueux. C'est dans ces conditions d'esprit qu'elle arriva chez le docteur. M. Hébert avait lui-même fixé l'heure et il attendait ses deux amis dans son cabinet de consultation. Lorsqu'on vint lui annoncer qu'elle venait d'arriver, accompagnée par le fidèle Picard, il alla au-devant d'elle et, tirant sa montre, « Vous êtes en avance de 5 minutes, mesdemoiselles, » fit-il en souriant à Louise. Au lieu de rougir ainsi qu'elle en avait l'habitude quand on mettait sa timidité à l'épreuve, la jeune fille regarda son interlocuteur et répliqua. « C'est que j'avais hâte de me rendre ici. J'espérais même que... quelqu'un m'y aurait précédé. » Puis son regard parcourut le cabinet comme pour s'assurer que Pierre n'était pas là. « Mon enfant, » dit M. Hébert, « je suis heureux de l'empressement que vous témoignez. Je vous ai tenu parole. Vous pourrez bientôt vous entretenir avec celui que vous désirez voir. » Puis se tournant vers Henriette, qui, ayant laissé Picard dans l'antichambre, était entrée à la suite de Louise. « Et vous aussi, mon enfant, » dit-il, « vous allez revoir une personne qui attend impatiemment l'instant où elle pourra se rencontrer avec vous. »«
Moi ?»
fit Henriette étonnée. À ce moment, un domestique parut. « Vous n'aurez pas attendu longtemps, » ajouta le docteur qui fit entrer une femme dont un voile épais dissimulait les traits.
« Madame, » dit alors Henriette, «
Monsieur Hébert assurait tout à l'heure que vous éprouviez un vif désir de me voir. Un très ardent désir de vous voir et de vous embrasser, mademoiselle Henriette, et vous aussi, mademoiselle Louise. Moi? Dit Louise étonnée. Qui donc êtes-vous, madame? Firent ensemble les deux jeunes filles. Regardez, répondit l'inconnu en relevant le voile qui recouvrait son visage. Marianne! S'écria Henriette. Marianne! Dit Louise, et Henriette, ouvrant les bras, attira la jeune fille sur son cœur. Pendant quelques instants, toutes deux se tinrent embrassées, muettes de saisissement et de joie, tandis que des larmes, de douces larmes, inondaient leurs visages. « Marianne, répétèrent les deux orphelines. Quelle joie de vous revoir, dit Henriette, vous qui m'avez sauvée du déshonneur, vous à qui je dois de devenir la femme de Roger. » Et de nouveau, elle serra la jeune femme sur son cœur. Après ce premier moment de surprise et de joie, les amis se racontèrent leur histoire, depuis le jour où elle s'était quittée à la salpêtrière. Ce fut M. Hébert qui dut interrompre cet entretien qui menaçait de durer encore longtemps. « Dites-vous adieu, mes enfants, dit-il, car nous attendons une autre visite, et celle-là, si je ne me trompe, ne sera pas non plus exempte de surprise et d'émotion. « C'est de lui, de Pierre, que vous voulez parler ? Dit Louise toute tremblante. « C'est de lui, en effet, dit le docteur, et je pense qu'il ne se fera pas attendre longtemps. » À peine M. Hébert venait-il de prononcer ces dernières paroles qu'un cri lointain se fit entendre, le cri du rémouleur. « À repasser les couteaux, ciseaux, canifs, à repasser les couteaux !» C'était bien la voix d'autrefois, cette voix éraillée, plaintive, lamentable, que Louise avait si souvent entendue. Elle écoutait, anxieuse et agitée d'un tremblement nerveux. Et la voix qui se rapprochait devenait peu à peu moins douloureuse et moins triste. Puis à quelque distance de la maison du docteur, elle résonnait comme un chant d'espérance et de consolation. L'histoire tout entière de l'existence passée du pauvre rémouleur était pour ainsi dire retracée par les nuances diverses de cet humble cri professionnel. Leur longue et cruelle souffrance à lui et à elle, les tortures qu'ils avaient subies ensemble, puis, après la délivrance de Louise, une famille retrouvée pour la jeune fille. Et lorsque la voix se fit entendre, se rapprochant de nouveau, elle éclata comme un chant de bonheur et de joie triomphante. Et ces paroles si banales, si vulgaires, « À repasser les couteaux, ciseaux, canifs, à repasser les couteaux », non plus criées, mais chantées cette fois, semblaient dire. Plus de désespoir, plus de larmes. Salut à la joyeuse aurore qui se lève. Salut au bonheur qui m'enivre, la bien-aimée et retrouvée. Louise écoutait avec ravissement. Elle s'élança vers la fenêtre, puis se ravisant tout à coup, elle prit Henriette et Marianne par la main. « Vous le connaissez toutes les deux, » dit-elle. « Toi, Henriette, tu l'as vu, mon pauvre Pierre, le jour où tu es venu m'arracher des mains de la Frochard. Et vous, Marianne ?»« Oui, oui, » dit celle-ci, rougissant au souvenir de Jacques. « je le connais aussi, ce pauvre Pierre. » Et toutes les trois, elles s'approchèrent de la fenêtre. De l'autre côté de la rue se trouvait le rémouleur, portant sur son dos courbé sa meule et tous les accessoires de son métier. Il marchait en boitant et portait les misérables vêtements d'autrefois. Son visage était entièrement caché sous les larges bords de son chapeau. « Oui, oui, je le reconnais, c'est lui !» dit Henriette. « C'est bien lui !» ajouta Marianne. Sans tourner les yeux de leur côté, le rémouleur se débarrassait de sa boutique et la déposait à terre. « Pierre ! Pierre ! » s'écria Louise d'une voix tremblante d'émotion. À ce cri, le rémouleur se retourna vivement, fit quelques pas, la jambe bien tendue, et se redressant de toute sa hauteur, enleva vivement son chapeau et releva vers la jeune fille son visage rayonnant. « Vous !» s'écria Louise. Elle avait reconnu le fils d'adoption du docteur et comprenait que Pierre et son fiancé ne formaient qu'un seul et même personnage. « C'était lui ?» « Docteur, » disait-elle, ivre de joie, « lui que vous avez ainsi métamorphosé. »« Je l'ai en effet quelque peu redressé physiquement, » dit joyeusement M. Hébert. « Je savais que je vous rendrais la vue. Il fallait bien rendre présentable ce brave garçon qui vous adorait. » Pierre, pendant ce temps, avait franchi les marches de l'escalier. Il était venu se jeter aux genoux de Louise en disant, « Vous vouliez me demander l'autorisation de donner votre main à un autre. Et reprenant son parler d'autrefois, il ajouta: Ce n'est pas moi, mademoiselle Louise, qui voudrais vous empêcher de prendre pour mari, fils adoptif de monsieur le docteur, et m'opposer à votre bonheur. Ni au bonheur de ton rival, mon ami Pierre, dit en riant monsieur Hébert. 15 jours plus tard, l'église Saint-Sulpice regorgeait de monde. Toute l'aristocratie avait voulu répondre aux invitations du lieutenant général de police. On célébrait le mariage du chevalier de Vaudrey avec Henriette Gérard. À la même heure, dans une chapelle latérale, le prêtre donnait également la bénédiction nuptiale à Louise et à Pierre. Le comte de Lignières avait tout combiné pour que les invités assistassent aux deux mariages à la fois. Picard, pendant tout le temps qu'avait duré la double cérémonie, se tenait sur le parvis. Et du haut des marches, gesticulant comme un fou, il criait aux serviteurs du comte réunis devant l'église. « Mariés, mes amis, nous sommes mariés! Nous sommes heureux, bien heureux tous les quatre! Tous les cinq, veux-je dire, car je suis un peu de la famille, moi !» Et le brave homme riait et pleurait à la fois.